France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Il se rêvait en faiseur de paix, il aura surtout jeté une bombe hier. Donald Trump a dit vouloir prendre le contrôle de Gaza avec pour objectif à terme de faire de l'enclave la Côte d'Azur du Moyen-Orient. On se rendra en Israël et à Gaza pour les réactions dès le début du journal. Volodymyr Zelensky se dit prêt à négocier avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, bluff ou pas. Nous serons à Moscou et puis on posera la question à notre invité aujourd'hui, le philosophe et journaliste Volodymyr Yarmolenko. L'actualité en France, ce sont d'abord les deux motions de censure contre le gouvernement qui seront votées cet après-midi à l'Assemblée. Et puis, on reviendra sur les résultats en trompe-l'œil du géant pétrolier et gazier Total Énergie. Stupeur, consternation, abêtissement, difficile encore ce matin de trouver les mots pour qualifier le sentiment occasionné par la dernière provocation de Donald Trump qui hier soir, aux côtés du Premier ministre israélien avec lequel il venait de s'entretenir à la Maison Blanche, a dit vouloir prendre le contrôle de Gaza avant de lancer cette proposition de promoteur immobilier, transformer l'enclave en Riviera, mais sans les Palestiniens, et de préciser ce n'est pas une proposition faite à la légère. Alors, que Donald Trump agissent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, personne ne devrait encore s'en étonner. En revanche, la proposition hier du tonitruant président américain de jeter aux orties la politique suivie depuis des décennies par son pays au Proche-Orient en a laissé plus d'un pantois, sauf Benjamin Netanyahou. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, le Premier ministre israélien s'est aussitôt réjoui de ces propositions qui pourraient selon lui changer l'histoire. Il a également salué en Donald Trump le meilleur ami qu'a jamais eu l'État hébreu à la Maison Blanche. Et on le comprend, tant la position du président américain s'aligne parfaitement en réalité, Thibault, avec celle de toute l'extrême droite israélienne.
Ouais, il faut bien regarder hier lors de cette conférence de presse, Benjamin Netanyahou se tenir à la droite de Donald Trump, un léger sourire aux lèvres, les bras bien accrochés à son pupitre. Il balaie la salle d'un regard assuré, semble s'amuser de la sidération des journalistes. L'annonce est tellement stupéfiante qu'il n'a pas eu besoin d'en rajouter, pas d'enthousiasme, pas d'approbation claire, mais une déclaration mesurée. Le Premier ministre israélien parle d'une idée différente qui pourrait selon lui changer l'histoire. Et depuis ce matin, les réactions en Israël sont unanimes. Le leader de l'opposition, Benny Gantz, parle d'un plan intéressant, créatif et original. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, fermement opposé à la trêve à Gaza, applaudit des deux mains et remercie le président américain. L'autre représentant de l'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui est lui sorti du gouvernement mais envisage depuis d'y revenir, a déclaré que Trump était l'unique solution pour l'après-guerre à Gaza. Donald Trump, qui est un messager de Dieu pour le dirigeant du parti ultra-orthodoxe Chass, Aryeh Deri, lui aussi membre de la coalition au pouvoir. Côté palestinien, vous l'imaginez bien, c'est la douche froide. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, lui-même expulsé en 1948 de ses terres au nord d'un territoire qui deviendra Israël, parle de graves violations du droit international.
Alors dans les plans concoctés par Washington, une inconnue demeure, Thibault, quel serait le sort réservé aux Palestiniens de Cisjordanie. Sur ce point, Donald Trump n'a pas souhaité donner cette ultime satisfaction à son invité hier, remettant la discussion à plus tard.
Oui, c'est complètement passé sous les radars, mais le président américain a annoncé qu'il prendrait dans le mois qui vient une décision sur l'annexion de la Cisjordanie par l'État hébreu, territoire occupé illégalement par un demi-million d'Israéliens, territoire qui depuis le 21 janvier fait l'objet d'une opération militaire intense de l'armée israélienne, plus de 50 morts pour le moment. Et puis l'autre question importante à très court terme, c'est la trêve à Gaza, les négociations pour aboutir à la libération de tous les otages et à la fin de la présence militaire israélienne dans l'enclave ont commencé. Elles sont évidemment perturbées par la déclaration de Donald Trump que le Hamas a qualifié par la voix de son porte-parole de ridicule et d'absurde.
Merci Thibault Lefèvre à Jérusalem. Alors on a du mal à saisir comment le projet de Donald Trump pourrait ne pas risquer de totalement remettre en cause les deux prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Comment l'opinion publique réagit-elle? Valentin Dunade, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Tel Aviv, a priori les Israéliens que vous avez pu rencontrer ce matin sont plutôt favorables à la proposition américaine.
En effet, un mot également hein, revient sans cesse, vous l'avez dit d'ailleurs dans vos titres, un mot revient ici en Israël après cette bombe lâchée par Donald Trump, et ce mot c'est la stupéfaction avec de nombreux Israéliens qui ne comprennent pas vraiment, on va les écouter.
Vraiment inattendu, c'est hardi. Je pense qu'il y a de l'exagération quand même. Mais sur le fond, je trouve ça pas totalement idiot. Y compris pour les Palestiniens.
Et ce point de vue que nous partage ce franco-israélien est plutôt répandu en Israël et même majoritaire. Mais les Israéliens ne sont pas dupes non plus. Quand Donald Trump fait de telles déclarations, il s'agit de ne pas les prendre au pied de la lettre. Simon est également franco-israélien.
Il promet des trucs pour avoir un minimum. C'est pas possible ce qu'il vient de dire. C'est faire annexer tout un territoire pour faire ce qu'il veut faire, non. Je suis pas d'accord, c'est pas bon. Je sais qu'il dit ça pour avoir un minimum.
Le minimum en question, qui est un peu passé sous les radars, Thibault Lefèvre vient d'en parler, c'est donc pour certains l'annexion de la Cisjordanie. Enfin, autre point important ici en Israël, ce qui est évoqué par Donald Trump, c'est un déplacement de population. Le président américain, comme la droite israélienne, utilise le mot de transfert, de déplacement, jamais de déportement. Près de 2 millions de personnes vivant à Gaza sont concernées et pour certains juifs d'Israël, c'est à tout le moins moralement dérangeant. En tout cas, cette idée imposée donc par Donald Trump permet au moins aux Israéliens de mesurer l'ingérence des Américains qui commencent à prendre ostensiblement le contrôle de la région.
Merci Valentin Dunat en direct de Tel Aviv avec Jérémy Tuil pour les moyens techniques. Voilà donc pour les réactions côté israélien, côté palestinien. Cette fois-ci, le Hamas dénonce des propos racistes. Le président Mahmoud Abbas dit lui rejeter fermement le projet d'occupation de la bande de Gaza par les États-Unis. S'agissant des Gazaouis eux-mêmes, eh bien la stupéfaction le dispute désormais à la peur, comme le laissent entendre ces témoignages recueillis par Étienne Monin.
Malgré un quotidien qui reste précaire, les déclarations ont déjà un impact à Gaza, dit Noureddine Al-Mansoun, installé au centre de l'enclave.
Sur le chemin du marché ce matin, il y avait déjà deux personnes qui parlaient du discours de Trump hier soir.
Il y a donc un mélange de rejet, de réflexion et de crainte dans les premières réactions. Assia a déjà quitté la bande de Gaza. Elle s'est réinstallée en Égypte, mais elle rejette la logique de Donald Trump.
Il compte rien que la monnaie. Le commerce, c'est ça ce qu'il comprend. Il ne voit pas les gens comme étant humains.
À Gaza, les habitants sont farouchement attachés à leur terre. Mais cette idée de la réinstallation divise Diasma. Elle est enseignante installée à Ran Younes.
Pour quitter ici, je ne sais pas. Il y en a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Il y en a beaucoup de gens qui le veulent. Il y a beaucoup de gens qui ont peur.
Derrière le doute, il y a une dose de crainte. Le plan du président américain manque de précision, mais il pourrait parler à une partie importante de la population, celle des jeunes, complète Noureddine Al-Mansoun.
La plupart des gens qui ont plus de 50 ans, mes amis, ils sont contre, complètement. Mais quand vous allez vers les plus jeunes, ils essaient de choisir quelque chose de plus réaliste pour leur avenir, sachant que 70% de la population de Gaza a moins de 40 ans.
Gaza est une terre de déplacés. Actuellement, dans le nord, beaucoup de familles essayent déjà de se réinstaller au milieu des décombres.
Un témoignage donc à Gaza recueilli par Étienne Monin.
Après bientôt 3 années de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt pour la première fois hier à négocier avec son homologue russe pour mettre fin au conflit.
Oui, dans une interview à un média britannique, il explique vouloir négocier directement avec Vladimir Poutine, lui qui pourtant a toujours rejeté cette idée, affirmant vouloir se battre jusqu'au bout sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, un décret datant de 2022 exclut même encore aujourd'hui toute négociation tant que le maître du Kremlin sera au pouvoir. Alors pourquoi un tel revirement ? Est-ce parce que son armée est aujourd'hui à la peine face aux forces de l'envahisseur? Est-ce par crainte de voir se tarir l'aide américaine, à moins qu'il ne s'agisse d'un coup de bluff stratégique pour renvoyer la balle vers Moscou, sachant que jamais, a priori, Vladimir Poutine n'acceptera cette main tendue? Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, ce matin, le Kremlin a jugé les déclarations de Volodymyr Zelensky vides de sens.
Pour le Kremlin, le fait que Volodymyr Zelensky se dise prêt à discuter avec Vladimir Poutine n'a aucun sens, ne serait-ce que parce qu'il a lui-même promulgué une loi interdisant ces négociations, rappelle Moscou, faisant semblant d'ignorer que Kiev pourrait revenir sur cette position. C'est d'ailleurs peu ou prou ce que disait le président ukrainien hier soir. Mais pour Moscou, si Kiev veut discuter, il faut d'abord que ce soit la partie ukrainienne qui le demande et qui dise sur quoi. En clair, Vladimir Poutine n'est pas demandeur. Le maître du Kremlin a même déjà déjà dit que si Volodymyr Zelensky devait participer à d'éventuels pourparlers, alors il enverrait quelqu'un d'autre à sa place. Moscou s'attache donc à décrédibiliser le président ukrainien. Il n'est pas légitime, a encore dit ce matin le porte-parole du Kremlin. Alors que l'hypothèse de négociation prend un peu plus de corps ces derniers temps, Moscou dévoile son jeu petit à petit. La Russie réclamera le gain des territoires conquis par son armée, mais aussi tout ce qui pourrait aller dans le sens d'un changement de régime à Kiev.
Sylvain Tronchet à Moscou. Et pour continuer donc d'évoquer la situation en Ukraine, invité à présent de la rédaction, Volodymyr Yarmolenko, philosophe, professeur d'université à Kiev, mais aussi rédacteur en chef du site d'information Ukraine World, et enfin président de l'ONG Pen Ukraine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Précisons tout de suite donc que vous êtes de passage à Paris, raison pour laquelle nous avons la chance de pouvoir vous recevoir. Vous habitez à Kiev, vous serez de retour a priori dès la fin de semaine. Est-ce que vous pouvez nous décrire tout d'abord à quoi ressemble une journée, j'allais dire, ordinaire dans la capitale?
J'habite dans les banlieues de Kiev, Brovary, et chaque nuit, il y a des alertes aériennes, il y a des drones russes, il y a des missiles russes, et bien sûr, c'est tout à fait dangereux. On habite dans cette situation pendant 3 ans déjà, donc, mais malgré tout cela, on essaye d'avoir des vies normales et même de voyager beaucoup dans les zones frontalières.
Depuis l'élection de Donald Trump, la perspective donc d'une entrée en négociation entre Ukrainiens et Russes s'est beaucoup rapprochée. Évidemment, on est encore très loin de savoir sous quelle forme de telles négociations pourraient avoir lieu. Mais hier soir, donc on l'a entendu dans une interview, le président Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine. Quel regard vous portez sur cette évolution?
Écoutez, les Ukrainiens ont dit toujours, depuis le commencement de cette guerre, que c'est la Russie qu'il faut presser à négocier. Donc la grande question, c'est pas l'Ukraine. La grande question est quel outil on trouve pour pousser effectivement Poutine à négocier et à chercher de la paix. Donc la stratégie que on va terminer l'assistance à l'Ukraine, et c'est pour cela que on va être plus proche de la paix, est tout à fait fausse. Et de la part des États-Unis et de la part de l'Europe. Donc il faut pas être naïf. C'est Poutine c'est la Russie qui est la clé de cette guerre, et c'est sur la Russie poutinienne qu'il faut il faut avoir la pression.
Vous ne redoutez pas du tout la pression donc de la nouvelle administration américaine qui conditionne de plus en plus malgré tout son soutien à la fois militaire, financier, à des concessions de la part de l'Ukraine?
Il s'agit du type des concessions, mais comme je répète, on ne sait pas à quoi attendre en fait un point de détail. Et effectivement, Trump essaye de montrer la force. Et il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont trouver l'accord avec Poutine, ou bien est-ce qu'il y aura une confrontation avec Poutine? Mais tout ce que je sais de l'histoire récente ukrainienne, c'est que c'est la volonté des Ukrainiens qui compte. C'est très souvent que la volonté des Ukrainiens, malgré tous les accords entre les grandes puissances, c'est les valeurs des Ukrainiens, c'est la lutte des Ukrainiens qui finalement change l'histoire.
Et lorsqu'on se réfère précisément à l'histoire récente des relations donc entre Moscou et Kiev, à commencer par 2014, est-il possible, ne serait-ce que, d'imaginer un accord diplomatique qui mettrait fin à la guerre?
Il faut distinguer entre les cessez-le-feu et la fin de la guerre. La fin de la guerre, ce sont des garanties de sécurité à l'Ukraine. Parce que l'histoire qu'on connaît déjà à partir de 2014, et oui, la Russie peut signer n'importe quoi, peut signer des accords de Minsk et d'autres accords, mais il va attaquer l'Ukraine quand elle voit que l'Ukraine est peut-être affaiblie. Donc, les garanties de sécurité des Européens, des Américains, d'autres puissances, pour garantir la paix durable, c'est ça la grande question et la question clé.
C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes perspectives en tête, qu'il s'agisse à la fois des Occidentaux, Européens et Américains en tête, mais aussi Ukrainiens ou Russes.
Oui, mais il faut comprendre que il faut le mettre dans la grande perspective. C'est pas la guerre pour les territoires, c'est pas la guerre entre Poutine et Zelensky. C'est la Russie a perçu la fin de la guerre froide comme une grande défaite. Elle veut avoir une revanche. C'est une grande puissance revanchiste. Et les ambitions de la Russie, c'est le partage de l'Europe. C'est pas seulement le partage de l'Ukraine. C'est pour cela que je répète à tous les Européens que c'est la guerre contre l'Europe.
C'est bien compris. Merci Volodymyr Yarmolenko, donc professeur d'université à Kiev et rédacteur en chef du site d'information Ukraine World, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Midi 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
De la dissolution de l'Assemblée à la surprise générale l'été dernier jusqu'à l'adoption la plus tardive d'un budget sous la Ve République, en passant par le plus long interrègne de l'histoire d'un gouvernement intérimaire, mais aussi le plus court passage du plus vieux Premier ministre à Matignon, décidément. La France aura vécu ces 8 derniers mois une série de moments politiques inédits. Alors faut-il s'attendre à une énième surprise aujourd'hui? François Bayrou affrontera tout à l'heure deux nouvelles motion de censure, toutes les deux a priori vouées à l'échec en l'absence tout d'abord des voix des socialistes, même si quelques députés pourraient toutefois braver la consigne, et probablement sans les voix non plus du Rassemblement National, même si, là encore, le parti d'extrême droite et ses alliés Ciottis feront planer le suspense jusqu'à la dernière minute. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas.
La décision des socialistes est connue depuis lundi, et même si une partie du nouveau Front Populaire ne désespère pas donc de convaincre certains élus de ne pas suivre la consigne, tout porte à croire malgré tout que le groupe devrait rester à peu près uni, aux grandes dames notamment des Insoumis qui condamnent donc ce choix. Et d'ailleurs, Rosalie, depuis lundi, le ton ne cesse de monter entre le PS et LFI.
Oui, c'est une bataille de récits entre les socialistes qui vantent une décision responsable pour donner à la France un budget et les Insoumis qui les accusent d'être justement irresponsables en sauvant la peau du gouvernement Bayrou, la députée LFI Alma Dufour.
Ils font une erreur historique. Ils ont fait semblant de rentrer dans ce jeu du compromis parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on aille à des nouvelles élections présidentielles. En fait, ils veulent sauver leur boutique. Ils décident de reproduire à l'infini les mêmes erreurs. Tant pis pour eux, c'est eux qui en paieront le prix.
Ils en paieront le prix aux prochaines municipales ou législatives anticipées. LFI menace d'investir des candidats face à chaque socialiste qui n'aura pas voté la censure parce qu'en faisant ce choix, selon Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis, le PS signe sa sortie du nouveau Front Populaire.
Moi, je ne menace de rien. Je dis juste que lorsque vous êtes en opposition et en rupture avec une politique qui, par trois fois, a été rejetée dans les urnes, si vous ne posez pas l'acte de censurer ce gouvernement, vous êtes de fait vous-même exclu, mis de côté par rapport aux engagements que vous avez pris.
Et depuis deux jours, certains rasent les murs dans les couloirs de l'Assemblée. Il y a des échanges durs, admet un socialiste. Les Insoumis nous mettent la pression, confie un autre, le porte-parole du PS, Jérôme Gadge.
Personne ne peut délivrer des brevets de pureté à gauche. Et ceux qui le font sont dans cette toute-puissance qui souvent est révélateur de l'éloignement et du déni du réel.
Mais ce qui sera révélateur pour la suite, promet déjà un insoumis, c'est de voir si tout le groupe PS se plie à la consigne ou si, comme la dernière fois, certains votent la censure. Après le discours de politique générale de François Bayrou, ils étaient 8 sur 66 à aller contre l'avis des instances socialistes.
Merci Rosalie Lafarge.
Après deux années hors normes de super profit, Total Energy a vu son bénéfice net fondre l'an dernier.
Oui, une chute de 26%. Alors pour autant, le bénéfice de la multinationale s'établit tout de même à près de 16 milliards de dollars. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
En réalité, derrière cette baisse, donc, il y a surtout, Camille, un retour à la normale pour Total Energy.
Oui, un atterrissage en quelque sorte après trois années particulièrement fastes. On rappellera tout de même que le groupe affiche des résultats qui sont toujours supérieurs et donc plus lucratifs à la période d'avant le Covid et la crise énergétique qui a fait exploser les prix du gaz et du pétrole et donc les profits jusqu'à 2024 où les prix ont enfin baissé, où le ralentissement de la demande mondiale aussi a freiné les activités de raffinage de Total, comme d'ailleurs de ses concurrents, venant gréver ses marges et la privant en fait des super profits réalisés en particulier en 2022 et 2023. Cette baisse des marges de raffinage fait même en sorte, aussi fou que ça puisse paraître, que selon son PDG, Patrick Pouyanné, Total Energy ne devrait pas payer l'impôt sur les sociétés en France cette année. Pas de quoi plaindre Total Energy donc pour ses résultats. Hein, le groupe annonce tout de même qu'il augmente ses actionnaires avec des dividendes en hausse de 7% par rapport à l'année dernière.
Et puis ces chiffres attestent aussi d'une autre tendance, Camille, la même d'ailleurs que celle qu'auront démontré les chiffres révélés la semaine dernière par ses concurrents, la réduction de la politique du groupe en faveur des énergies renouvelables.
Ouais, difficile de ne pas le voir hein, puisque Total Energy confirme une baisse de 500 millions d'euros dans ses investissements dédiés aux énergies renouvelables et dans le même temps prévoit d'augmenter sa production d'hydrocarbures de plus de 3% cette année avec l'entrée en service de gisements particulièrement prometteurs dans le golfe du Mexique ou encore au Brésil. Le groupe mise aussi beaucoup sur le gaz naturel. Il est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié des États-Unis. La politique très favorable aux fossiles de Donald Trump devrait donc lui bénéficier. Total Energy table sur une année 2025 faste donc pour ses activités gazières. Tout ça amène Greenpeace à dénoncer l'indécente lucrativité d'une multinationale française qui reste profondément basée sur l'extraction fossile.
Merci Camille Magnard. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, encore très largement brumeux au nord, même si quelques éclaircies réussiront à percer sur les bords de Manche et ensoleillées au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 5 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.